Je veux dire simplement que je suis dans un tout autre registre que celui de Guy Deméo. Je ne suis pas partie de choses extrêmement théoriques sur le territoire, sur la territorialité, la territorialisation, de choses qui sont précieuses et qui m'ont beaucoup servi, je dois dire, dans mon propre travail, quand j'ai moi-même réfléchi à ce que c'était que l'inscription spatiale de la pauvreté. Là, simplement, je suis en aval de ce travail que j'ai fait sur l'inscription spatiale de la pauvreté en étant effectivement dans une recherche qui est à la fois sur l'objectif et sur le subjectif. C'est vrai que c'était une des choses que j'ai essayé de faire constamment et qui m'importe beaucoup, de voir les questions objectives et les questions subjectives, notamment à travers toutes les questions de territorialité. Et pour mon travail, pour ceux qui me connaissent, je me suis emparée du concept de frontière pour analyser les questions de pauvreté. Donc c'est avec ce bagage-là, que sur lequel je travaille depuis maintenant longtemps, que je suis aussi, en arrivant à Montpellier, rentrée en contact avec des partenaires sociaux dans la ville. Ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est plus quelques réflexions, si vous voulez, qui sont liées à ce travail que je mène avec quelques années avec des partenaires sociaux dans la ville pour essayer de comprendre la question du sans-abrisme avec une particularité, c'est que les partenaires sociaux dans la ville essaient de comprendre pour mieux traiter, pour mieux analyser, pour mieux voir les choses. Et dans l'appel à... Enfin, le petit texte qui présente notre séminaire d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, je vais évoquer les questions de politique publique, mais ça ne sera pas l'objet de mon travail, de ma présentation. Ma présentation, c'est au fond tout ce qui porte sur la construction des représentations de la pauvreté, la question relative aux frontières symboliques, à la catégorisation et surtout à l'invisibilité ou la mise en visibilité de la pauvreté, avec là une question qui est complètement paradoxale, parce que les personnes sans-abri, c'est celles qu'on voit le plus et en même temps, celles qui sont le plus invisibles. Voilà, donc c'est un certain nombre de réflexions sur ces questions-là que je voudrais développer, présenter avec vous de façon rapide et rendre et dire que, si vous voulez, le travail que j'ai mené, je l'ai mené avec des gens du Centre communal d'action sociale, mais aussi au sein de la POSLR, l'Observatoire social et sanitaire de Languedoc-Roussillon, à propos de la question justement des sans chez soi. Et il y a eu toute une phase de choses auxquelles j'ai participé, et je participe, si vous voulez, à titre d'universitaire. Je suis toujours au milieu de gens qui sont des acteurs sociaux et je suis la seule universitaire. Voilà, ces réflexions, elles viennent un peu de là. Et il y a eu une grande journée le 29 mai 2015 organisée par le Carrefour des ressources et études pour l'autonomie et l'inclusion, l'Observatoire régional de la santé et l'Observatoire social et sanitaire de Languedoc-Roussillon, justement sur cette question des sans chez soi, et j'étais chargée d'introduire la journée. Donc ce que je vais dire aujourd'hui reprend en partie ce que j'avais dit pour cette grande journée, et une journée à laquelle pendant laquelle je ne m'adressais qu'à des travailleurs sociaux. Et avec ma casquette de géographe, du coup, j'ai toujours essayé de dire l'importance de l'inscription spatiale, de l'inscription dans des territoires, de la territorialité, en insistant beaucoup sur l'impensé du territoire. Voilà, ça c'est le cadre général. Mais là, si vous voulez, je reviens donc au préambule, donc quelques réflexions sur les paradoxes de la visibilité et de l'invisibilisation des personnes en situation de pauvreté, le contexte de présentation de cette présentation, travaille avec des partenaires sociaux à Montpellier sur la question du sans-abrisme. La première chose que je tiens à dire, c'est qu'on ne peut pas discuter. Et c'est souvent un des objets, c'est souvent une des faiblesses de travaux, soit sociaux, soit même universitaires. C'est toujours la segmentation. On segmente, on passe son temps à segmenter. Ce que je voudrais dire là, c'est une évidence peut-être, mais que la question du sans-abrisme est indissociable de la question de la pauvreté. Et cette question de la pauvreté, elle suppose, et on l'a beaucoup discuté l'année dernière, et j'avais beaucoup discuté avec Sylvia et Daniela, elle suppose que l'on adopte une définition de la pauvreté. Et je vous ai déjà expliqué maintes fois que j'ai adopté pour ma part une définition sociale de la pauvreté inspirée de Georges Simmel et reprise par Pogam, et après je l'ai fait mienne, évidemment je l'ai travaillée. Et l'idée, c'est qu'on est pauvre dans une société quand on est reconnu par la société comme étant en situation de pauvreté, et que de ce fait on bénéficie d'une aide, ou on est susceptible de bénéficier d'une aide. De ce fait, si vous voulez, dans notre société, passant ces guichets, si vous voulez, de l'aide sociale, on disait autrefois l'assistance, maintenant on dit l'aide sociale, passant ces guichets de l'aide sociale, on passe une frontière. Et c'est dans ce sens-là que je me suis servi du terme de frontière pour parler de la frontière de la pauvreté. Et en tant que géographe, évidemment, je n'ai jamais oublié la spatialité de cette frontière. Mais je ne vais pas développer ici la spatialité parce que c'est un autre travail et ce n'est pas le sujet du jour. Mais c'est juste pour dire le contexte dans lequel je travaille. Alors, bien sûr, il y a toutes les définitions monétaires, toutes les définitions selon les conditions de vie qui recoupent et qui sont très intéressantes pour montrer les aspects multidimensionnels de la pauvreté. Et puis avec nos collègues brésiliens, j'ai beaucoup dit, avec mes deux jeunes collègues brésiliennes, Sylvia et Daniela, j'ai beaucoup discuté d'Amartya Sen que je connaissais, mais que je n'ai pas... que j'ai pas intégré dans ma propre recherche. Néanmoins, j'ai beaucoup eu d'intérêt, et ça je l'avais dit l'année dernière à Rio, j'ai eu beaucoup d'intérêt à travailler sur cette question, sur cette définition d'Amartya Sen, parce que ça m'a permis de mieux travailler sur la question des effets de lieu négatifs que j'avais posés dans mon propre travail. Moi, je l'avais posé en termes plutôt de résidence et de stigmatisation, comme vous l'avez posé à propos de l'effet de quartier, hein, dans ce sens-là. Ça devient, et à l'échelle du Brésil, parce que c'est une autre échelle quand on travaille au Brésil, ça devient la question du non-accès à. Du non-accès à et de tous ces effets du négatif du non-accès à. Du non-accès à la terre, déjà, du non-accès à l'eau, du non-accès à un certain nombre de services intégrateurs qui sont évidemment pas les mêmes dans le contexte où j'ai travaillé. Voilà. Rappeler aussi la diversité des situations de pauvreté. Ça, c'est une classification là qui résulte de l'échantillon d'enquête sur lequel j'avais travaillé sur 600 personnes qui avaient demandé le fonds d'urgence sociale, et on était hors des minima sociaux ordinaires, on était hors des demandes, si vous voulez, institutionnelles, et du coup il y avait beaucoup de choses. Et là, c'est de la classification statistique, si vous voulez, c'est de la description statistique avec l'outil de la classification. J'arrivais à cette classe de ménages en situation de pauvreté, et ce qui nous intéresse là par rapport au sans-abrisme, c'est cette catégorie là, si vous voulez, cette catégorie des jeunes isolés sans domicile permanent. Maintenant, c'est au fond la catégorie des sans-abri qui recoupe un petit peu, mais là, on va revoir cette question de l'abri et du domicile, la question des isolés en foyer dans le parc locatif privé dont les ressources sont très faibles. Et puis, si vous voulez, ça s'oppose fortement dans l'axe là statistique aux grandes familles logées en HLM. Et ici s'opposent on n'appelait pas ça à l'époque des travailleurs pauvres, pauvres et des femmes bénéficiaires de l'API, l'allocation de parents isolés, qui représentent des familles monoparentales, plus toute le marais des gens qu'on ne voit pas. Et ce que je voulais dire là, simplement, c'est pour montrer cette continuité. Là, c'est une coupe, hein, si vous voulez, c'est une coupe dans le temps. Mais en même temps, il y a une continuité biographique dans les passages d'une situation à l'autre, ce que j'essaierai de dire aussi. Et simplement aussi montrer, dans mon panneau statistique, je ne me souviens plus du détail, mais c'est 9 à 10 %. Ces gens qui n'ont pas de ressources, qui sont plutôt jeunes et qui ont le profil des sans-abri que nous connaissons, toujours, ça, c'est assez permanent, bien que mes statistiques soient anciennes, c'est assez permanent, eh bien, c'est 10 %. Et pourtant, c'est une synecdoque de la pauvreté, les sans-abri. Ça veut dire que quand on pense pauvreté, on pense d'abord sans-abri. Et on oublie, si vous voulez, jeu de masque, premier jeu de masque, on oublie que ces gens qui sont dans une situation difficile, plus que difficile, sont une espèce de partie émergée de l'iceberg. Voilà, c'est tout ce que je voulais rappeler. Je voulais rappeler ça aussi aux collègues travailleurs sociaux. Et inscrire cette question du sans-abrisme dans trois processus de disjonction, celui au centre des villes, entre deux mondes, celui de la réussite métropolitaine et celui des populations pauvres qui y trouvent des aménités au quotidien. Et si on prend l'exemple de Montpellier, Montpellier, c'est la métropole qui gagne, c'est l'agglomération qui gagne le plus d'habitants avec Toulouse depuis 30 ans. C'est là où on a une croissance de l'emploi de qualité. Enfin bon, je ne vous fais pas le tableau, vous n'avez pas besoin que je vous le fasse. Mais en même temps, comme montre cette carte de la part de la population couverte par le RSA en France et dans Languedoc-Roussillon, le Languedoc-Roussillon, comme le Nord-Pas-de-Calais, c'est une région où on a une très forte proportion de population couverte par le RSA. Et si on regarde ici le secteur de l'Hérault, Montpellier apparaît, la ville-centre de Montpellier apparaît, elle aussi, abriter beaucoup de populations couvertes par le RSA. Bon, on peut trouver la même chose dans le Bas-Rhin. Hein, dans le Bas-Rhin, si vous voulez, où apparemment on a une plus faible part de population couverte par le RSA, c'est aussi la ville. Ça, c'est un phénomène général. Autre carte que je vous ai déjà montrée aussi, je l'ai même montrée à Rio de Janeiro, cette carte-là, c'est une typologie des espaces de pauvreté en Languedoc-Roussillon réalisée l'année dernière par les collègues de l'INSEE. Et là encore, on retrouve, si vous voulez, donc là c'est multifactoriel, hein, on retrouve pour Montpellier, qui est une commune à forte densité de population, avec une pauvreté importante. Hein. Donc ce paradoxe, enfin c'est pas vraiment un paradoxe, parce qu'on sait l'analyser, c'est justement un jeu d'échelle. C'est un jeu d'échelle, c'est pas un paradoxe. On sait analyser, mais en tout cas, cette constante de la métropolisation, des espaces qui sont gagnants, en Alsace, c'est la ville qui est la plus riche, Strasbourg, et en même temps, c'est elle qui abrite, c'est dans cette ville qu'on a la plus forte proportion de ménages en situation de pauvreté. Alors, avant de passer à cette première catégorie, je voulais dire aussi, je voudrais revenir aux autres disjonctions que je développerai pas beaucoup, mais je voudrais quand même le dire. Par rapport aux politiques publiques de lutte contre la pauvreté et à la territorialisation de ces politiques, il y a des politiques de droit commun et des politiques aussi de discrimination positive, celle de la politique de la ville sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé ici. Ce qui est intéressant par rapport à la question du sans-abrisme, c'est que c'est l'État qui continue à gérer cette politique et à la mettre en œuvre, alors que les politiques de lutte contre la pauvreté, le RSA, enfin toutes ces autres politiques-là, classiques, elles sont au mieux menées en partenariat pour la politique de la ville, ou alors complètement déléguées dans le cadre de la décentralisation. Donc il y a cette disjonction-là, et du coup, là, il y a une difficulté de mise en œuvre des choses qui sont parfois qui sont très, très difficiles. Et enfin, disjonction pour cette question du sans-abrisme entre les dispositifs qui sont mis en place et la réalité des besoins. Et je ne vous apprends rien si le téléphoner au SAMU social, c'est une vraie galère parce que on peut vous répondre une fois sur trois ou quatre seulement. Et il y a toutes sortes de dispositifs qui sont bien mis en place, bien rodés, mais qui ne prennent pas un certain nombre de questions en charge, notamment la question des gens malades. Les gens à la rue, les gens malades, qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça se passe? Et donc, il y a toute cette question, si vous voulez, de fond, de la disjonction entre les dispositifs qui sont mis en place et la réalité des besoins. Alors, ce que j'ai préparé là, c'est que je vais essayer de, toujours pour la question de la visibilité, je vais essayer de revenir un peu sur les catégories du vagabond à la personne sans domicile et expliquer un petit peu cette question du sang chez soi. C'est dur à dire, hein, je bafouille souvent. La question du sang chez soi et voir les notions, comme ces notions sont glissantes et quel est l'imbroglio statistique à propos de la question du sans-abrisme. Ensuite, je voudrais, dans une deuxième partie, rappeler que dans des parcours biographiques, ces personnes sont toujours passées par un moment d'errance. Rappeler cette diversité-là. Et puis, parler un petit peu de la territorialité des personnes sans domicile à soi dans la ville. Alors, des catégories à déconstruire. Michel Messu, dans La pauvreté cachée, une analyse bachelardienne du concept de pauvreté, fait une démonstration magistrale de cette question. Moi, c'est beaucoup plus modeste. Je voudrais, par les lectures que j'ai faites, et notamment dans le livre de Patrick Brunteau et Daniel Terrol, L'arrière-cour de la mondialisation, il y a une bonne analyse de cette question-là. Et dire que les catégories, elles sont construites par le champ politique, les lois, les décrets. C'est toutes les catégories liées à l'exclusion. Elles sont liées au champ scientifique. Et là, on peut parler de choses que j'ai reprises moi aussi, de la disqualification sociale que j'ai empruntée à Pogam. Et puis, il y a le champ gestionnaire, les publics de l'aide sociale. Et là, le vocabulaire est très intéressant parce qu'on ne parle pas des bénéficiaires, on parle des publics. Chaque fois que je vais à une réunion, le vocabulaire change. Ce sont les publics, ce ne sont pas les personnes en situation de pauvreté, ce sont les publics. Donc, ça fait des représentations, si vous voulez. L'exclusion, par exemple, dans notre société, c'est une représentation négative de mise à distance, de répulsion, de mépris, parfois de diabolisation. Et l'effet pervers de ces catégorisations, c'est que, si vous voulez, ça masque tous les processus par lesquels on arrive. Alors, c'est facile de dire on n'est pas femme, on le devient, on n'est pas pauvre, on le devient. Et les auteurs que j'ai cités montrent bien l'euphémisation des rapports de domination. Même s'il y a une diversité, ce que je vais montrer, des personnes en situation de pauvreté, des personnes touchées par le sans-abrisme, il y a en même temps une condition sociale qui est plutôt celle du prolétariat ou du sous-prolétariat et des formes qu'elles prennent aujourd'hui. Le livre de Daniel Terrol et Patrick Brunteau s'appelle « L'arrière-cour de la mondialisation, ethnologie dépaupérisée ». Et puis, d'autre part, il y a souvent une tendance à psychologiser le social, parler d'inadaptation, d'infirmité sociale. Si vous voulez, ou alors à réduire pour le sans-abrisme cette seule condition si difficile à la seule problématique du logement, qui n'est pas la seule. Il y a au moins la question de la santé, il y a bien d'autres problématiques. Alors, les catégories, l'histoire, un bref rappel des catégories du sans-abrisme. Dans la tradition chrétienne, pauvreté et misère sont opposées. La pauvreté, c'est une façon d'arriver au salut. La misère, non. Et du point de vue des gens qui sont sans domicile, si vous voulez, le bon pauvre, c'est celui qui réside quelque part. Le mauvais pauvre, c'est le vagabond, l'errant. Et il y a une définition pénale, une relégation, un enfermement. Le terme de sans domicile apparaît au 19e. Il existe vers 1920 par rapport à la question du logement et du logement plutôt indigne. En 80... Je fais des grands bonds, parce que je n'ai pas le temps de faire une histoire. En 80, c'est le vocabulaire, c'est le mot sans-abri qui apparaît et qui devient le mot essentiel. Et c'est aussi une façon de montrer l'action résiduelle de l'État dans le cadre de la mise à l'abri. C'est en ce sens-là que c'est aussi une catégorie construite par les politiques publiques. Et dans la même veine, il y a une étude du Conseil de l'Europe sur les 100 logis qui date de 93. Le terme de SDF, sans domicile fixe, est un terme plus étroit qui apparaît en 90 dans le contexte du RMI, de l'adoption du RMI, de la pauvreté. Pendant cette période, si vous voulez, 80, 90 et même avant, et ça perdure dans notre société, il y a le terme de grande pauvreté qui passe. Alors, qu'est-ce que c'est grande pauvreté ? C'est comme une espèce de label de l'association ATD Quart Monde qui a tant fait dans notre société pour la reconnaissance des droits politiques des personnes en situation de pauvreté. Et en même temps, si vous voulez, grande pauvreté, Geneviève Antonos de Gaulle avait montré que c'était un concept qui n'avait pas de sens en soi. Pauvreté, ça suffit. Ça suffit. Alors, grande pauvreté, on peut le définir aussi par le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté en France, c'est 60% du revenu médian. On peut dire que grande pauvreté, c'est 40% du revenu médian. C'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de chercheurs, beaucoup de... c'est comme ça que souvent, en tout cas, on parle de grande pauvreté. Arrive, si vous voulez, dans les années 2000, des typologies du sans-abrisme qui sont un petit peu plus compliquées, comme celle, par exemple, de la Fondation Abbé Pierre, où on a des personnes privées de domicile personnel, dont sans domicile, dont des personnes qui sont dans des résidences sociales, des personnes qui sont en chambre d'hôte, des personnes en chambre d'habitation, des personnes en hébergement contraint. Donc c'est un peu plus large déjà que la situation simplement sans domicile tout court. À partir de la réflexion sur 2009, si vous voulez, la santé, des personnes à la rue, apparaît le terme de la santé des personnes sans chez soi. Et ça recouvre un mouvement européen d'une association qui s'appelle FEANCEA, et qui, de 89, et qui, là aussi, montre la collaboration de chercheurs et d'acteurs sociaux à l'échelle européenne, qui font un travail collectif et qui font rentrer là autre chose que simplement la question du logement stricto sensu. Il y a la question de du logement, hein, c'est l'exclusion de la sphère physique sur cette figure, et il y a la question du fait d'avoir un logement pour pouvoir avoir une vie sociale. C'est la question de l'exclusion de la sphère sociale et puis le fait d'avoir un droit ou pas à ce logement. C'est la question, c'est la sphère juridique. Et ainsi, on arrive à une typologie, si vous voulez, avec strictement les sans-abri, vous voyez, qui sont au cœur, où il n'y a rien, si vous voulez, ni logement physique, ni espace à soi, ni titre quelconque qui donne un droit. Les sans logement où on dispose d'un endroit adapté au logement mais pas d'espace dont la jouissance exclusive est attribuée, donc ça c'est dans le domaine exclusion du domaine juridique, exclusion de la sphère sociale, etc. Et vous voyez, on arrive là à une typologie qui est plus fine, beaucoup plus fine, et qui prend en compte la question du vécu, avec l'idée que là, et ça c'est là où, si vous voulez travailler avec des acteurs sociaux, c'est intéressant, parce que bon, alors c'est une typologie, c'est intéressant, ça pourrait me donner une base pour faire des études, et en même temps je comprends une chose en travaillant avec en étant dans ces réunions de travailleurs sociaux, c'est que, si vous voulez, dans la manière de prendre en charge l'exclusion du logement, on dit toujours, ah oui, il faut passer par des paliers. Il faut passer par des paliers. Et là, il y a un renversement de politique, c'est housing first, le logement d'abord, et après on verra pour le reste. Si vous voulez, alors que jusqu'à présent, les politiques publiques, c'était d'abord tous ces paliers. Je passe, hein, on pourra rediscuter de ça si vous voulez. Non, je reviens à la question de l'imbroglio statistique. Comment on fait pour compter ? Comment on fait pour compter les sans-domicile ? Alors justement, quand j'étais avec... J'ai travaillé à l'analyse des besoins sociaux pour le Centre communal d'action sociale, et on avait fait un travail sur les sans-abri. Comment compter ? Ben, impossible. Impossible de compter, si vous voulez, parce qu'il y avait les rapports des uns et des autres, et puis l'INSEE a fait des enquêtes, si vous voulez, au jour J, de gens qui fréquentent tel ou tel service d'aide à la personne. Alors ça donne une image, mais on n'arrive jamais à recoller les morceaux. Donc il y a une tentative qui a été faite avec les gens avec lesquels j'ai travaillé de dépasser cet imbroglio statistique. J'ai oublié de dire l'essentiel. Pourquoi imbroglio statistique ? Parce que la statistique française, elle est faite à partir du lieu de domicile. Alors quand on n'a pas lieu de domicile, ça ne marche pas. Tous les recensements depuis le 19e siècle sont faits sur cette base-là. Donc ça ne marche pas. Alors bien sûr, il y a eu toutes sortes de groupes qui ont cherché, qui ont essayé de comprendre. Et là, au niveau local, avec un statisticien de l'INSEE qui est Roger Rabier, que tu connais aussi, que vous connaissez, et puis les gens de la Poste LR et Louise Delator au CAS, il y a eu un travail, si vous voulez, pour essayer de faire quelque chose, pour essayer de compter avec la domiciliation. La domiciliation, c'est le fait d'avoir une adresse officielle. C'est quelque chose qui est permis par la loi Dalo. Et donc, il y a un appareillement de fichiers avec la domiciliation au CAS dans une grande association, en rajoutant, alors là aussi, c'est de la cuisine, en rajoutant les gens qui sont hébergés dans du logement, dans des hébergements d'urgence, et en rajoutant... en excluant les gens du voyage et en hébergeant et en rajoutant par le fichier CAF des gens hébergés à titre gratuit. Tout ce que je veux dire là, c'est que c'est un énorme travail de mise en synthèse de fichiers qui sont d'habitude pas mis en synthèse et qui permettent d'avoir une vision. Et cette vision, en plus, pour nous géographes, elle me frustre parce que c'est toujours sur la ville. On n'arrive jamais à savoir ce qui se passe dans les communes voisines parce qu'on n'a pas les statistiques, on n'a pas... Bon. Mais déjà sur la ville, pour Montpellier, ça donne 7900 personnes qui sont hébergées à titre gratuit chez quelqu'un ou dans des places d'insertion ou domiciliées tout court. Et 7900 personnes, ça fait 3% de la population. Alors, toujours la question de la visibilité et de l'invisibilité. Cette question de la domiciliation, elle est intéressante, et cette question statistique, elle est intéressante, mais on est toujours dans le transversal. Ça masque l'évolution des situations, et ça masque aussi, là on le voit, la diversité des personnes sans abri, avec quand même un profil qui est toujours le même et qui se dégage dans ce travail qui a été fait par mes collègues et qui est publié dans le numéro 2 de la revue de la Poste LR de juin 2015, donc la question des sans chez soi à Montpellier, c'est le fait que, comme dans tous les travaux sur la France, on a une surreprésentation d'isolés, entre 80 et 90%. Allez, je retrouve le tableau, je ne l'ai pas photocopié, je ne l'ai pas mis dans mon PowerPoint. Voilà, les isolés, si vous voulez, ils sont 95%, ils sont 98% par rapport, un peu moins de 98, 93% quand ils sont allocataires de la CAF avec une adresse domiciliée au Centre communal d'action sociale. Ils sont 80% quand ils sont domiciliés à l'association Corus, qui est l'association qui fait le plus d'hébergement social. Et ils sont 81% quand ils sont logés à titre gratuit. Avec juste une différence, c'est qu'il y a plus de femmes, 24%. Qui sont logés à titre gratuit chez les autres. Sinon, il y a une surreprésentation d'hommes, ce qu'on retrouve, si vous voulez, dans la société, même si les femmes apparaissent et sont plus visibles aussi. Alors, diversité des personnes sans chez soi. Dans mon travail, on me l'avait dit, si vous voulez, il y a les zonards, il y a les personnes qui constituent la population flottante dont on parle toujours en ce moment. C'est la population aussi diverse que celle des réfugiés, des gens qui n'ont pas de papier, qui sont délinquants, qui sont prostitués, qui sont jeunes errants étrangers entrés en France avec un visa de tourisme. Toute cette population flottante et dont on dit souvent souvent, et on le dit encore aujourd'hui, qu'elle est en concurrence, on a tendance à dire ça, si vous voulez, méchamment dans les médias, que cette population est en concurrence avec la population classique des sans-domicile. Et puis, on a ces personnes qualifiées traditionnellement de sans-domicile qu'on appelait autrefois des clochards. Alors, juste, je voudrais juste là vous raconter les deux enquêtes que j'avais faites dans mon propre travail, parce que j'ai fait ça il y a longtemps, mais il me semble que c'est toujours aussi fort. J'avais essayé de mettre en ligne, là, les parcours familiaux, les parcours résidentiels et les parcours professionnels. Alors, je vais commencer par l'enquête 1, si vous voulez. Au moment de l'enquête, c'est des gens qui ont été bénéficiaires du fonds d'urgence sociale. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer en contact et les rencontrer. J'ai fait un travail d'enquête biographique. Et à ce moment-là, bon, Madame P est âgée de 25 ans. Elle a eu une enfance difficile, une mère alcoolique qui la battait. Elle était placée en foyer, vous voyez, pendant 12 ans dans un quartier qui s'appelle La Méno. Son père remarié, et à l'âge de 17 ans, elle se fait mettre à la porte de chez elle, classique. Elle se fait mettre à la porte de chez elle à l'âge de 17 ans et elle passe un an à la gare. Et à l'époque, à la gare à Strasbourg, il y avait la partie gare basse où on pouvait nettoyer les wagons qui étaient ouvertes et il y avait pas mal de gens. Et elle retrouve là son frère, un an quand même, à la gare à 17 ans. Alors elle me dit, je mendie pour manger, je mettais un sac banane sous le pull pour me donner des airs de femme enceinte. Pendant la galère, il y avait des moments pas mal, on vivait en bande, on avait des copains, on mettait de la musique, du reggae. Et puis en 80, aujourd'hui, elle voit plus ses compagnons d'errance, mais elle dit quand même qu'il y a une surmortalité. Parmi ses compagnons d'errance, il y en a un qui est mort en tombant sur une ligne à haute tension, par exemple. Et alors elle rencontre là, elle me dit, c'est une jolie histoire d'amour, c'est comme un film, elle rencontre là un monsieur qui lui nettoie, et qui est en contrat d'emploi solidarité, et il nettoie les wagons. Alors un contrat d'emploi solidarité, c'est des gens qui sont plus au RSA, enfin à l'époque c'était le RMI au RSA, qui travaillent tout en étant tout en étant dans l'assistance, si vous voulez, dans l'aide sociale. Hein. Et alors là, c'est là où c'est intéressant par rapport à la question du sang chez soi, c'est qu'elle se met en ménage, elle finit par se mettre en ménage avec cet homme, et pendant 2 ans, si vous voulez, après la gare, ils sont hébergés chez la belle-fille. Et même ensuite, si vous voulez, après la naissance des enfants. Ils sont hébergés pendant 6 ans chez la belle-fille. Puis ils finissent par obtenir un HLM. Et c'était compliqué parce qu'à l'époque, le mari avait perdu son travail, il est illettré. Et puis elle n'a pas non plus de travail. Et donc, question des dettes. Donc voilà, si vous voulez, les parcours. Hein, les parcours, au fond, sans chez soi. Sans chez soi, 2 ans avec un chez soi, avec un logement, avec tout ce qu'il faut, mais une menace absolue, si vous voulez. Donc là, la liaison avec tous les problèmes de pauvreté de la société. Hein, vous voyez, c'est... Bon. Et l'autre parcours, alors ça, c'est peut-être le classique, mais en même temps, ça met en évidence les problèmes de santé dont j'ai beaucoup entendu parler à toutes les réunions auxquelles j'ai assisté, les problèmes de santé difficiles. Alors, le monsieur au-dessus, monsieur B, qui habitait à l'époque une ville au nord de Strasbourg, c'est le parcours, si vous voulez, qu'on pourrait dire classique, malheureusement, du décours d'une vie dominée par l'alcool. Lui aussi, une enfance difficile, un père qui bat. Il sort avec un CAP de magasinier. Il commence à vivre à Neuf-Brisach, près de Colmar. Il reste 2 ans. Il se fait embaucher de l'autre côté du Rhin. Malheureusement, ça s'appelle la cave au vin. Et du coup, il part pendant 1 an, il habite en Allemagne, donc frontalier, et pendant les 10 années suivantes, c'est ce que j'ai figuré ici, pendant ces 10 années-là, il fait plein de choses, il gagne bien sa vie, il est routier, ouvrier, dans une usine de médicaments, d'entretien, il me dit « je gagne bien ma vie », voilà. Mais il est déjà dépendant de l'alcool. Et au bout de 10 ans, il s'arrête là. Il s'arrête parce qu'il est tellement alcoolique, et alors tellement alcoolique, c'est quand même, il me dit « je bois 8 litres de vin par jour ». Plus tout le reste, donc c'est un alcoolisme grave. Il fait un coma éthylique, il est logé en foyer sonotra, il commence une cure de désintoxication, il rechute, à nouveau complètement sans abri, il passe un automne, un hiver dans les Vosges, et puis pendant 5 ans, il squatte dans la petite ville de Haguenau, en se rendant de temps en temps à Paris, dans les gares, pour aller boire un peu avec ses amis. Et du point de vue humain, il dit qu'il est particulièrement affecté par le suicide de son ami I.E. et la mort d'un compagnon d'errance. Il me dit combien il admirait ce garçon, intelligent, débrouillard sur la route, quoique violent à ses heures parce qu'il avait fait la guerre. Et ça aussi, c'est une constante que m'ont dit souvent les gens, les travailleurs sociaux que j'avais rencontrés pour mon propre travail de recherche. Ils m'ont souvent dit qu'il y avait une déstructuration liée à une rupture familiale, ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui ont été maltraités finissent à la rue, mais il y en a une partie plus forte que d'autres. Et il y en a un certain nombre qui ont fait la guerre, qui ne se sont jamais remis de ça. Et il y en a d'autres qui ont des pathologies psychiatriques et qui ne se sont pas remis de ça non plus. Et à l'époque où je l'avais rencontré, ce monsieur était dans un parcours vertueux. Il travaillait lui aussi en contrat d'emploi solidarité, dans une cuisine, il était dans un logement. En même temps, il n'était pas complètement stable parce qu'il me disait, pour l'avenir, j'aimerais à nouveau partir sur la route ou alors m'installer quelque part. Alors, si vous voulez, toujours cette question de l'invisibilisation aussi, territoire de l'errance, je vais juste citer là parce que le temps passe, mais le travail passionnant de Jemila Zenaidi et Henri, qui a été publié dans un livre que Geneviève a dirigé, et où elle montre les territoires de l'errance au féminin, avec là aussi deux types de populations, des femmes qui ont une mobilité contrainte invisible, un peu plus âgées, qui recherchent des lieux fermés, qui cherchent là aussi la distance par rapport aux prostituées, la peur d'être identifiées comme des prostituées, la honte, la peur de l'agression, et là elles sont invisibles, elles se cachent le plus possible, et même dans ce que dit Jemila, ce qu'elle dit, c'est que même ceux qui tiennent les asiles de nuit ouvrent les portes un peu plus tôt pour elles, pour pas qu'elles soient mélangées. Et puis autre groupe, où là, c'est pas le genre qui compte, c'est plutôt l'identification à un groupe. L'identification à un groupe et là, une culture plutôt de zonarde, si vous voulez. La question du territoire des personnes sans abri dans la ville, la construction du territoire, elle se fait par le biais du passage. Et là, j'ai juste mis une carte que j'ai trouvée dans Carto Magazine, mais on peut... Jemila Zenaidi en avait fait pour Bordeaux. Si vous voulez, le territoire, il est construit là, par la ressource que constituent les lieux où on peut assurer le quotidien, où on peut assurer tout simplement son quotidien, se laver, manger, parfois dormir, si on ne dort pas dans la rue, si on a la chance de trouver un hébergement d'urgence, parce que c'est quand même, il y a une réponse sur trois qui aboutit, c'est pas beaucoup, hein, même en hiver. Et donc il y a un lieu avec quand même dans la ville, et c'est là où c'est l'hypercentre, je remontrerai pour Strasbourg, l'hypercentre ici, les lieux, on le voit très bien sur cette carte, une concentration autour des gares, gare de l'Est, gare du Nord, gare Montparnasse, gare d'Austerlitz, un peu moins gare de Lyon, et une concentration dans l'hypercentre. Hein. Mais c'est là aussi que sont situés les lieux, les guichets, si vous voulez, sociaux, où on peut assurer son quotidien. Et c'est aussi là qu'il y a des espaces centraux où on peut utiliser l'hypersens comme ressource pour mendier, pour s'installer. Avec une question difficile aussi, voilà une carte qui vous rappelle la configuration de Strasbourg avec tous les quartiers d'habitat sociaux et le centre de Strasbourg. Et les personnes sans domicile, on les trouve au centre, si vous voulez, avec ce que j'avais trouvé pour mon propre travail, une différence entre la nuit, dans les espaces interstitiels où on peut se cacher, là c'est la gare et la fameuse gare basse et gare haute, maintenant c'est un peu différent, et puis le jour dans l'hypercentre, les rues où on peut s'installer dans l'espace public, avec une très grosse difficulté, c'est le fait qu'il y a une superposition des frontières du corps et de la pauvreté dans l'espace public, avec souvent un marquage dans l'espace public quand on peut, marquage quand on est en bande avec des chiens, des canettes, ou quand on est seul avec des cartons, avec toutes sortes de sacs. Et là, si vous voulez, illustration, j'étais en jury d'agrégation externe à Paris, tout le monde connaît la rue Saint-Jacques pour les géographes, dans le quartier de la rue Saint-Jacques, en allant travailler. On marque l'espace, le trottoir est petit, ça c'est la rue Cujas, hein. Voilà, en partant travailler, si vous voulez, là, il n'y a plus d'espace. Et donc là, si vous voulez, c'est complètement conflictuel et c'est complètement, c'est ça qui est insupportable, si vous voulez. C'est le fait qu'il y a cette visibilité maximale et en même temps cette invisibilité terrible. Avec cet homme qui passe et nous qui passons à côté sans trop bouger. Mais en même temps, c'est toute la mauvaise conscience de notre société qui passe là. Avec, là encore, des gens qui dorment sur le trottoir, avec, depuis le mouvement Don Quichotte, une espèce d'invisibilisation des personnes, des corps en tout cas. On invisibilise les corps et on rend visible par les tentes la question des sans-abri. Mais ça ne résout pas tout, mais en même temps, il y a ce paradoxe-là qui a bien été montré par Brunto notamment. Voilà. Et je voulais dire là, faire une petite incise là sur l'importance des problématiques de santé. Si vous voulez, c'est là où la demande est complètement, l'offre est complètement inadaptée. Il y a des structures d'hébergement comme ci, comme ça. Simplement, pour les gens qui ont des pathologies lourdes, et il y a toutes sortes de pathologies, si vous voulez, je ne parle même pas de la psychiatrie, je ne parle même pas des addictions, mais je parle du diabète, des gens qui ont des débuts de cancer, des gens qui ont des pathologies dans le genre jambes cassées, enfin ce genre de pathologies-là, si vous voulez. On sait très bien, nous, ça nous arrivait d'être malades, qu'on a besoin d'un petit peu de suivi et d'un petit peu de calme. Et il y a aussi toute la question de l'accès au droit, d'où retour à la question de la domiciliation et à tous les non-recours. Donc, si vous voulez, là, il y a vraiment une tension entre l'offre et la demande. Je voudrais terminer donc sur cette question de l'invisibilisation des personnes sans chez soi, ce paradoxe que j'ai montré simplement par quelques réflexions. Si vous voulez, l'invisibilisation statistique, l'impossibilité de faire des statistiques ou la difficulté récurrente à faire des statistiques sur cette question-là depuis longtemps. Cette invisibilisation qui fait que les gens sans abri, tout simplement, et après sans chez soi, sont une synecdoque de la pauvreté, tout le reste disparaît, pourtant tout le reste n'a pas disparu. Et eux-mêmes passent souvent d'une situation à l'autre, comme on l'a vu pour la jeune femme dont je vous ai raconté un tout petit peu le parcours. Invisibilisation aussi dans l'espace public, parce qu'il suffit d'une très bonne loi anti-mendicité pour chasser tous les gens qui sont à la rue de l'hypercentre. Ou aussi, alors ça c'est plus critique et plus politique, si vous voulez dire aussi que le SAMU social qui ramasse les gens la nuit, ça a aussi pour vertu de les mettre à distance dans des asiles de nuit qui sont souvent loin. Et c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles un certain nombre de gens, au moins l'été, ne souhaitent pas aller dans les asiles de nuit. Hein, donc il y a toute cette question de l'invisibilisation. Et je voudrais terminer avec Daniel Terol sur la question de l'invisibilisation à la disparition, c'est-à-dire la question de la mort des sans-abri. L'homme que j'avais rencontré, dont je vous ai raconté aussi un tout petit peu le parcours, qui était en cure de désintoxication, m'a raconté ce qu'il avait le plus choqué, c'est que son ami de galère, là, qui regrettait beaucoup, avait été enterré, dit-il, comme un chien, sans couronne, sans fleurs. Et toute la question, c'est cette invisibilisation, même dans les statistiques. Daniel Terol dit, on ne sait pas. Bien sûr, il y a une surreprésentation de la mortalité chez les sans-domicile, bien qu'il, De Clercq dit qu'il ne se suicide pas. Mais en même temps, on est usé par la vie quand ça dépend du temps qu'on a passé. C'est toute la question du temps aussi. Hein. Je n'ai pas eu le temps de développer cette question essentielle du temps passé à la rue, hein, et des temporalités. Voilà, comme ça double pas. Et Daniel Terol, il dit la mort des SDF, et ça fait au moins 20 ans déjà que je travaille là-dessus, la mort des SDF à Paris est un sujet tabou. Il ne semble pas de bon ton de l'aborder. Et il explique comment, en cherchant des statistiques, que ce soit au service funéraire de la ville de Paris, que ce soit aux hôpitaux de Paris, à l'Institut médico-légal, à l'INSEE, il n'arrive jamais à avoir de statistiques. Donc il y a une espèce et dans l'organisation à Paris, on fait des espèces de fosses communes avec des concessions en carton ou je ne sais pas quoi, enfin il explique ça, qui ne doivent pas durer. Et j'avais vu aussi des associations qui se constituaient pour, avec des gens anonymes comme vous et moi, qui fassent des funérailles dignes de ce nom aux gens. C'est une action militante, si vous voulez. Voilà, donc je termine sur cette question-là de l'invisibilisation, de l'importance du territoire et de d'une errance qui n'est pas choisie, qui est toujours subie. Hein, voilà.
Merci beaucoup, Catherine. Parfaitement tenu le temps.
Oui, je me suis un peu dépêchée, mais ça fait rien. Alors, merci de votre présence. Voilà, avec une maille à haute pierre où il y a une jolie frontière. Elle s'appelle Catherine, la maille. Voilà. Et la bibliographie, je vous la donnerai une autre fois. Je vous la donnerai, on la mettra sur le site.
Bon, merci Catherine, parce que parfaitement tenu et extrêmement. Alors, comme tu dis, avec une dimension empirique très forte, centrée sur la thématique du programme, mais alors grande clarté d'exposé, je te remercie beaucoup à titre personnel, j'ai beaucoup apprécié. Alors on va bien sûr donner la parole maintenant à la salle pour des questions, des remarques.
Je me lance. Est-ce que véritablement il y a une invisibilisation? Parce que je me demande si on n'est pas dans un contexte de pauvreté et de misère, où justement là on a une survisibilisation du phénomène. Vous voyez ?
Moi je pense que c'est un paradoxe, si vous voulez, parce que par moment on ne voit que ça. Et à un moment donné, on fait disparaître, on repousse, si vous voulez. On dit c'est essentiel, mais on n'a toujours pas réussi en 20 ans à compter correctement les gens qui sont à la rue. On ne les compte pas. On ne les compte pas parce qu'ils n'ont pas d'adresse ou que c'est compliqué, l'adresse. Vous avez vu les bricolages qui ont été faits localement, que je vous ai un tout petit peu raconté. Vous pourrez lire le détail correctement dans la revue que je vous cite. Il y a cette difficulté, et il y a cette difficulté aussi, c'est que c'est l'État qui gère avec des associations locales, ou des associations, si vous voulez, qui s'occupent de l'hébergement, qui s'occupent dans l'urgence, qui font des rapports, et il y a comme, même s'il y a des politiques publiques, si vous voulez, là, il y a par exemple un diagnostic territorial qui est demandé localement aux régions, ça s'appelle un diagnostic à 360 degrés, avec des questions multiples, pour essayer de voir, mais voir toujours quoi, les structures d'hébergement. Avec un peu de suivi, si vous voulez, mais les questions de santé, elles sont prises par une autre association, par une autre structure. Il y a toujours cette difficulté-là pour les personnes en situation de pauvreté dans la prise en charge, d'une prise en charge globale. Et c'est en ce sens-là que je parle d'invisibilisation aussi, parce que le fractionnement des questions, ça rend les choses... Il n'y a qu'à faire, quoi. Il n'y a qu'à les loger, quoi. Sauf que ce n'est pas que ça. Voilà, c'est en ce sens-là que je parle. Je dis bien que c'est un paradoxe, parce qu'il y a des moments où on voit que ça. Quand je vais au jury de la grègue externe le matin, je vois que ça. Enfin, peut-être que je le vois parce que je suis sensible, mais quand même, je bute sur quelqu'un qui a passé la nuit sur un trottoir et qui a disposé ses affaires pour faire frontière. Que son corps soit protégé un tout petit peu. Et là, il y a la frontière sociale que j'analyse. Donc, si vous voulez, là, pour les gens sans domicile, c'est une frontière labile, évidemment. La trace de cette frontière, elle est labile, parce qu'il ne suffit pas de grand-chose pour chasser, pour mettre à distance. En même temps, voilà pourquoi j'inscrirais ça dans le paradoxe. Dans le paradoxe. Et là, dans le paradoxe, et puis là, il faudrait aussi voir les jeux de mobilité qu'il y a entre la ville, l'hypercentre, hein, et puis dans une région comme l'Hérault, dans un département comme l'Hérault, il y a l'arrière-pays. Il y a un certain nombre de gens qui partent se réfugier dans des zones de faible densité de population en se disant qu'ils s'en tireront mieux. Ce qui est une façon aussi de disparaître, mais qui n'est pas une façon de mieux s'intégrer, il me semble.
Merci.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre remarque ou à votre question. Je dirais que c'est un paradoxe, si vous voulez. On est toujours dans le paradoxe avec ces questions de visibilité et d'invisibilité.
Oui. Une autre question. Pour reprendre un petit peu la même idée, mais passer à autre chose après. La pauvreté en tant que telle n'est pas seulement là.
Non, bien sûr.
Et je pense que cette visibilité extérieure qui est provocante, à la limite, est peut-être aussi un masque de la pauvreté vécue, y compris par ceux qui ont un chez-soi, mais qui ne peuvent plus régler.
Ah ben, si vous voulez, c'est ce que j'ai montré de manière statistique, mais que j'avais montré dans mon travail précédemment, sur le fait qu'on a tous ces invisibles, qui c'est des petits ménages qui ont 3 sous, 2 centimes, qui vivent de l'aide sociale, enfin des minima sociaux, RSA, RMI autrefois, et qui sont dans des petits logements HLM et qui sont piégés là. Et là, ces ménages-là recoupent. Ça recoupe la question des banlieues parce que là où ils sont les plus nombreux, c'est là justement où il y a des fortes concentrations d'habitat social et souvent dans un parc dégradé. Mais ils sont invisibles parce que là, les situations de pauvreté sont terribles. Et puis là, c'est là où la question, j'ai aussi un peu travaillé là-dessus avec mes étudiants à un moment donné, sur la question de pauvreté école. Si vous voulez, toute la difficulté quand il y a un enfant dans ces familles-là, la difficulté par rapport à l'école et à la surreprésentation de l'échec des enfants issus de familles pauvres. Et ce n'est pas parce qu'ils sont plus bêtes que d'autres, c'est parce qu'ils portent des choses plus difficiles et aussi, sans doute, parce qu'ils n'ont pas de lieu à eux pour pouvoir se poser, tout simplement. Et puis après, il y a toutes les stigmatisations, l'école qui est faussement gratuite, etc.
Oui, ma question essentielle n'était pas... Ça, c'était un éclaircissement, c'est important. Elle était autour de la notion de rupture.
Oui.
On sait qu'il y a un moment de basculement. Tu as souligné tout à l'heure combien on sortait à un moment donné de l'institution pour basculer dans autre chose. Or, on bascule dans ce qu'on pourrait appeler l'espace public. Et c'est-à-dire que là, on se trouve confronté à une nouvelle conception de l'espace public. Non plus la conception normée et propre dans laquelle on se situe couramment, hein, c'est notre espace public.
Oui, tout à fait.
On ne s'en sert pas. Et on s'en sert très peu, sinon pour marcher, pour déambuler. Et là, on se rend compte que cette vision de la rupture introduit une autre conception de l'espace public.
Tout à fait, avec Daniel Terol qui raconte que, il a écrit ça il y a longtemps aussi, qu'il y a un urbanisme dissuasif dans la ville et nous on s'en rend pas compte. Par exemple, il dit, on met des cailloux sous l'espèce de balcon qui avance. Comment on peut se coucher sur des cailloux? On surarrose les pelouses d'un certain nombre de quartiers. Et tout le monde a vu ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour avoir vu que les bancs maintenant ne sont plus des bancs où on peut se coucher parce qu'on met un espèce d'accotoir au milieu qui interdit qu'on puisse se coucher sur un banc.
Alors, c'est un peu, bon, je dirais que dans cette conception de l'espace public, il y a une partie déviante qui a été bien intégrée, c'est le street art. Mm-hmm. Depuis la peinture des bornes d'interdiction de stationner jusqu'aux façades, etc. Donc là, il y a quelque chose qui a été parfaitement récupéré et qui est intégré dans une logique de savoir, de connaissance et de visibilité.
Et de requalification des quartiers. À Rome, notamment, il y a un quartier comme ça.
Et puis, il y a cet usage que certains jugent, je mets entre guillemets exprès, hein, malsain, d'un espace public qui, d'un seul coup, devient leur propriété, leur lieu d'usage, et qui est pénalisant pour ceux qui pratiquent couramment l'espace public et qui se trouvent confrontés à la vision de quelqu'un sur le trottoir, à une tente dressée à quelque part, à quelqu'un qui coupe son sandwich avec ses chiens autour, etc.
Sans parler des questions d'hygiène aussi.
Oui, mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est finalement, cette pratique des espaces publics ne pourrait-elle pas induire une autre façon de penser l'espace public? J'avais écrit en son temps un petit article sur l'espace public en question à l'espace public. Mais là, il y a une belle question à l'espace public.
Oui. Les Canadiens ont une réponse à ça. J'ai vu, alors je n'ai pas beaucoup lu là-dessus, je ne sais pas, mais j'ai vu quand même un article avec une image qui m'avait frappée. Au lieu de mettre de l'urbanisme dissuasif avec un banc, avec un accotoir au milieu, ils donnent des espèces de tentes qui permettent de s'abriter sur le banc et se mettre à l'abri, comme l'a fait le mouvement des Don Quichotte en distribuant ces tentes légère et qui permettent à un certain nombre de sans-abri de s'abriter au moins des regards. Au moins des regards. Et d'être visible, alors là, du coup, comme dans le nombre, et d'être visible dans le nombre. Parce que quand on est seul, sans tente, on est encore plus vulnérable qu'avec une tente. Mais tout le monde n'a pas de tente non plus. Et du coup, il y a des espèces de formes comme ça, mobiles, effectivement, d'installations dans la ville. On les voit tous. Alors, à Montpellier, on les voit moins parce que ce n'est pas à Paris. Mais à Paris, on les voit sur les berges de la Seine, sur les berges du canal Saint-Martin, en contrebas, sous les ponts. Il y a beaucoup d'endroits où il y a ces formes de cabanisation. Je ne sais pas comment appeler ça. Ou alors, alors, pour les Brésiliens, on pourrait dire des mini-favelles. Ça n'a rien à voir avec l'échelle de la Providence qu'on avait visité tous ensemble, ça n'a rien à voir. Mais néanmoins. Et c'est dans l'hypercentre, ça qui est intéressant du point de vue de l'espace urbain, c'est dans l'hypercentre, parce que c'est là qu'il y a des ressources, c'est là qu'il y a les guichets pour boire un café, les vestiaires de la Croix-Rouge, les hébergements d'urgence sont près des gares en général, ou souvent en tout cas. Et puis c'est là aussi où on peut se faire une place pour mendier. Avec toutes les formes de panneaux. Enfin, là, il y a toute une analyse linguistique à faire des panneaux. Quelqu'un l'avait fait de façon très humoristique une fois. Voilà. Donc, effectivement, une autre façon de voir l'espace public, mais en même temps, ça je ne sais pas si ça résout ou si ça fait glisser le problème, mais c'est... À Los Angeles aussi, il y a comme ça un parc entier où il y a des... J'avais lu ça dans un livre justement sur la justice spatiale et sur la question de la ségrégation. Un parc entier de gens qui sont à la rue mais qui préfèrent être là aussi parce qu'il y a une ressource. Il y a une ressource au moins en termes d'amitié. Mais c'est toute la question qui a été posée précédemment à la suite de l'intervention d'Isabelle sur qu'est-ce qui est ressource et qu'est-ce qui est enfermement. C'est qu'est-ce qui est enfermement et qu'est-ce qui est non-intégration, du coup. C'est toute la ressource. Là, pas communautaire, mais le fait qu'il y a des ressources locales.
Très bien. Une dernière question.
Oui, c'est un exemple. Je vois à Bordeaux la présence de sans-abri qui avait construit des campements de tentes a accéléré une opération d'urbanisme. Dans le centre-ville, c'était un accélérateur, justement.
Phénoménal.
Visant à les chasser, de fait. Mm-hmm. Et on a installé donc un système qui est présenté, que ça s'appelle Centre Plus. C'est l'idée d'augmenter la centralité par les circulations, par les activités sociales, etc. Au détriment, de fait, des sans-abri.
C'est pour ça que la trace de cette frontière est si labile. C'est facile de récupérer, encore plus facile qu'avec les opérations de rénovation urbaine, oui, encore plus facile qu'avec la destruction ou la récupération d'espaces centraux dans les très grands bidonvilles, ou les pas bidonvilles, mais les favelles au Brésil. Parce que mais là, c'est très facile. Et c'est intéressant, moi, je n'ai pas observé ça, mais c'est intéressant ce que vous dites de cette opération à Bordeaux.
La même opération a intégré, par exemple, dans les locaux, reconstruit un resto du cœur, a réintégré un bistrot associatif qui était présent, avec des très ouvert aux sans-abri, où il y a un centre d'accueil. Enfin, il y a toute une normalisation autour de ces projets urbains, finalement, toute une normalisation des sans-abri.
Une pérennisation, oui, une normalisation et une pérennisation de la question.
Et en même temps, l'idée d'une pérennisation.
L'idée d'une pérennisation, puisque vous dites qu'on les met dehors et qu'en même temps, on réinstalle un bistrot associatif où ils peuvent venir se reposer. Voilà. Voilà. Les réunions aussi auxquelles j'ai assisté montraient bien la question de la temporalité, le temps passé à la rue. On s'en sort quand même mieux quand on passe peu de temps. Ça, c'est une évidence pour nous. C'est une évidence, mais la bascule, là encore, la bascule, la rupture, comme le mot que vous employez, elle vient vite.
Très bien, merci beaucoup, Catherine.
Merci de votre écoute.